problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter.
Scouse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, After sur RMC à la radio uniquement ce soir. L'After qui est là avec vous, bien sûr, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Pour une soirée évidemment spéciale, une semaine particulière, on va être ensemble malgré tout dans l'After pour ensemble essayer de se changer les idées par les foot, car il y a tout de même une petite actualité qui continue et vous allez voir, on vous a préparé plein de surprises pour cette semaine avec l'équipe de l'After qui est présente, bien sûr, dans des conditions un peu spéciales que je vais vous décrire pour être tout à fait transparent. Déjà, nous ne sommes qu'à la radio ce soir et ce sera comme ça dans les jours qui viennent également pour l'After, donc toujours disponible en podcast évidemment. Bien sûr, le 32-16 est toujours disponible, tout comme le Direct Studio, le hashtag RMC Live pour dialoguer avec nous. Et comme tous les lundis, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Et salut les amis.
Jérôme Bretel également est là, comme tous les lundis. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous.
Et nous avons avec nous pour la première fois, les gars, ce soir, Eric Huette, qui est avec nous. Salut Eric.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Eric,
quelle chance
de se retrouver avec Jérôme sur les terrains, de temps en temps.
Je suis très déçu que Gilbert, que Jérôme et Daniel restent à distance.
Oui, alors on va vous expliquer, pour être tout à fait transparent, comment ça va se passer ce soir. Dans notre studio habituel, je suis présent avec Eric, mais Jérôme et Daniel sont, eux, à la maison. Vous êtes installés comment, d'ailleurs, les gars, à raconter un petit peu, Daniel.
Effectivement, la sensation est quand même vraiment bizarre, mais je ne savais pas qu'Eric était sur place. Bon, il faut dire qu'on n'a pas, tous eu le droit. Hein. Il y a des mesures qui sont assez strictes.
Oui, c'est pas vous qui avez choisi d'être à la maison, voilà, hein, je le précise.
J'avoue que de prendre le matériel aujourd'hui, sans descendre de la voiture, avec un technicien qui est venu me le poser, genre comme si c'était une mallette avec des faux billets dedans, enfin bon, bref, c'était déjà assez pittoresque. J'ai branché mon petit matériel. Bon, Gilbert, tu me connais, d'un point de vue technique, je ne suis pas hyper habile, donc il a fallu quand même que je passe 2-3 coups de fil avant de réussir à faire 2 branchements.
La chance qu'on a, c'est que tu ne l'as pas jeté contre le mur avant de passer un coup de fil, c'est déjà ça.
donc après j'ai réussi à faire le branchement, et là donc je suis dans la salle à manger sur la table seul.
Je trouve que tu parles un peu doucement, hein. Tu peux te lâcher, hein.
Mais c'est pas ça, mais je te promets, la sensation, il va falloir au moins une heure, ou j'espère pas toute la soirée, mais pour m'y faire là. Mais je t'avoue que c'est un petit peu la seule fois où je l'ai fait comme ça sans être à côté de toi.
Parce que là, c'est pas le RMC Poker Show, tu peux te lâcher, hein.
Bah, t'inquiète pas, dans le RMC Poker Show on se lâche bien, mais la seule fois où je l'ai fait comme ça sans être avec toi, c'est quand j'ai dans des stades, tu vois, quand on était mais là à la maison chez moi, franchement, excuse-moi, mais la sensation, elle est super bizarre, quoi. Ça, je suis pas comme Jérôme, où lui, évidemment, est bien plus à l'aise parce que les domestiques vont lui apporter à boire régulièrement. Il va avoir ses petits canapés, son champagne.
Non, exactement. Là, il faut dire où on est. Non, mais moi, j'ai pris la salle à manger de mes domestiques. Donc voilà, ils sont dans leur chambre, là, tranquillement, et je voulais pas.
En revanche, je refuse de faire l'émission si Jérôme est chez lui, pas habillé, c'est-à-dire genre en survêtement, à la cool, en claquette.
Fred Herbel régulièrement nous explique qu'il est nu avec son caleçon David Beckham quand il fait l'after. Évidemment, personne ne peut voir, mais.
Ouais, mais Fred, à la limite, lui, c'est un habitué de l'expatriation et du mec qui ne fait pas l'émission sur place. Mais Jérôme, non, je veux qu'il soit bien habillé, comme quand il vient dans l'émission. Coiffé, peigné et tout. Je veux pas qu'il soit là, genre Fred, limite, sur le canapé, en train de se gratter
Jérôme,
les rouleaux.
Il a un pyjama de Dolce Gabbana, je pense.
Non, pas du tout. Non, au contraire, j'ai un caleçon, et vu que je savais qu'Eric était là aujourd'hui, et c'est un honneur de l'avoir dans notre émission. Merci. J'ai mis le maillot, mon maillot contre la corogne. Tu vois, ça lui rappelle des bons souvenirs.
Oh, t'es pas sérieux.
Bon, le mec, arrête, tu mets pas des maillots de foot quand t'es chez toi quand même.
Bon, heureusement encore, non. Mais pas le maillot des autres, hein. pas le maillot des autres, hein, le
si
mien.
Si tu fais vraiment ça, on veut une photo.
Bah, je vais vous en envoyer une. Je vais le faire.
Mais là, non, sur
le
Twitter,
truc, c'est qu'avec
quoi,
tout
pas,
ça.
Non, non, ça, je peux pas.
Le truc, c'est que depuis le temps, je pense que ça fait à peu près 6 mois, oui, parce que c'était cet été, donc plus qu'à chaque fois que je croise Eric, je lui dis, ah merde, il faut que je te file ton cadeau ASM.
Je pensais l'avoir ce soir. Voilà.
Et bim, et ce soir, il vient enfin, et nous, on est condamnés à rester à la maison. Et ça, mais tu l'auras jamais ce cadeau. Tu l'auras jamais ce cadeau ASM.
Sache, Daniel, que j'occupe ta place au moment où je te parle. Voilà. Je suis dans la place.
Bon, c'est un rêve qui t'arrive, hein,
ça va, Eric. Mais ce cadeau-là, il va finir par moisir.
Alors, pour ceux qui ne connaissent
pas. C'est le micro qui est moisi. Tellement tu parles.
Pour ceux qui ne connaissent pas Eric Huet, alors tu commentes les matchs sur RMC Sport 1, évidemment, toute la saison. Bon, alors évidemment, en ce moment, il n'y a plus de matchs. Donc, du coup, on s'est dit, bah tiens, c'est l'occasion. Viens un peu dans l'after, là. Parce qu'Eric, on entend toujours commenter les matchs, dire oui, faire les analyses et tout. Mais vous allez voir que le mec est aussi capable d'avoir des opinions.
J'espère.
C'est quand même le but de l'after.
Pas que sur Monaco, Eric. Hein,
non, pas que sur Monaco. Je te rassure.
Donc vous allez voir ça avec nous jusqu'à minuit. Je précise que Julien Cazard sera également avec nous tout à l'heure à 23h comme tous les lundis. Et les drôles de dames comme tous les lundis à 22h30. Avec donc, c'est un peu notre événement ce soir, un nouvel after qui démarre quoi, en quelque sorte pour peut-être plusieurs semaines avec de nouveaux contenus. On vous a préparé plein de choses. Vous allez découvrir ça un petit peu au fur et à mesure toute la semaine puisque nous aussi, on est obligé de s'adapter à ce qui se passe. Mais on veut absolument continuer avec vous, bien sûr, avec vous au 32-16, à parler foot tant qu'on peut. L'idée étant, évidemment, de se changer un peu les idées, quoi, hein, dans ce contexte très, très, très compliqué et anxiogène, donc pour passer un bon moment ensemble. On parlera actu, parce qu'il y en a une tout de même. Jean-Michel Aulas était tout à l'heure dans Team Duga, vous l'entendrez. Demain, il y a la fameuse réunion de l'UEFA qui va décider du sort de l'Euro et donc, par voie de conséquence, de la fin des championnats domestique, on en parlera. Et puis, vu qu'Eric est là, dossier spécial Monaco, parce que Eric, faut le dire.
Totalement par hasard.
Monaco, c'est ton club. Voilà, tu étais un des grands connaisseurs sur la place française de l'ASM.
C'est ce qui m'avait valu, d'ailleurs, la première apparition dans l'after il y a maintenant un petit peu plus d'un an et demi, quelques semaines après mon arrivée au sein des RMC Sport. On avait fait, vous vous souvenez, messieurs, le 11 de l'histoire de Monaco.
Je me souviens.
Ah ouais,
Jérôme n'était pas dedans d'ailleurs.
Non, j'avais mis Bruno Bellone, mais je sais que Jérôme ne m'en veut pas.
Non, pas du tout, bah, bien sûr.
Menteur, Jérôme.
Non, Eric, je me souviens. Alors, franchement, je ne me souviens pas de ce cas particulier.
Si.
Tu mets Bellone, donc on va dire en joueur en haut à gauche plutôt que Jérôme. Que Bellone, je me souviens parfaitement. J'ai grandi avec ce joueur et tout, mais juste rien que pour l'épopée 2004, Jérôme, il ne mérite pas juste pour ça.
Ah mais bah, si on se fie aux épopées, après on reste
mais c'est ça
sur
qui donne l'émotion.
Période.
Ouais, mais c'est ça qui donne l'émotion forte. Parce que Bellone, c'était un joueur régulier en championnat avec Monaco, mais il a pas eu de pic de forme comme Jérôme quoi.
C'était l'époque quand t'es gamin, tu te souviens de tellement de choses et bah Bellone, c'est quand même champion d'Europe 84 et buteur en finale. Donc c'était.
Ah, d'accord, mais pas avec l'ASM ça, avec l'équipe de France.
Mais à l'époque il jouait avec Monaco.
Mais de l'épopée de 2004, t'avais mis qui dans ton 11
Je sais plus ça pour le coup. Il faudrait
s'il m'a pas mis moi, il a pas dû en mettre. Hein.
Ah, c'est pour ça que je posais la question. Il me semble qu'il a Miguel JV. Mais bon,
Non.
Je me souviens d'avoir mis Glenn Hoddle, évidemment, parce que ça, c'est un joueur que tous les supporters monégasques mettent forcément dans.
Bah, peut-être Ludo Juli, peut-être que t'avais mis.
Je sais plus. Il faudrait se repencher sur le cas.
En tout cas, Monaco, pourquoi ? Parce qu'on va se poser la question suivante, qui est dans la tête de pas mal de supporters monégasques. L'ASM est-elle encore un club de foot ou juste une machine à fric ? C'est un peu provoque. C'est le but de l'after. On en débattra ensemble tout à l'heure. Supporters de Monaco, on vous attend au 32-16. Bien sûr, on débattra vers 21h40. Vous le savez, on a lancé dès vendredi dernier le hashtag MonAfter pour que vous nous fassiez vos propositions de sujet de débat pour cette période à venir sans match. On en a reçu des dizaines. Il y en a des super. Et on en a retenu une première ce soir et on va profiter de la présence d'Eric pour démarrer. C'est que tous nos correspondants qui vont sur les terrains toute l'année commenter les matchs, eh bien, comme souvent ils se succèdent dans l'after, hein, Florent Germain à Marseille, Edouard G à Lyon, toi Eric ce soir et d'autres. Eh bien, vous allez vous amuser à nous donner votre podium des matchs les plus incroyables que vous avez vécu au stade. Nous aussi, on pourra le faire. Daniel, Jérôme et moi, bien sûr, ensemble. C'est une proposition qui vient du hashtag MonAfter. Donc, on l'a retenu ce soir. On a retenu également plein d'autres hein, pour les jours qui viennent. Ensemble. Ce sera tout à l'heure ça aux alentours de 22h. Je précise également, puisque bon, il n'y a plus d'actu liée au club, que nos podcasts club aujourd'hui, évidemment, n'ont pas été renouvelés. Compliqué, évidemment, de faire des podcasts longs pour expliquer ce que font les joueurs du PSG, de Lyon, de Saint-Etienne. Ou de Marseille, ça n'a pas trop d'intérêt, hein, même si oui. Certains s'entretiennent. Il y a pas mal de clubs qui sont actuellement en sommeil, donc où on donne des programmes d'entraînement aux joueurs. Donc pour l'instant, ces podcasts-là s'arrêtent. Ils reprendront évidemment au plus vite. On passe à l'actu, les gars. Vous avez peut-être écouté Jean-Michel Aulas tout à l'heure dans Team Duga. On va le réécouter avant d'aller plus loin ensemble. Il est en fait. Je n'ai pas dit qu'il fait pas un mea culpa ou un retour net en arrière sur ses déclarations de la semaine dernière, hein, que vous avez tous suivi, je le rappelle. Le fait de dire on gèle le championnat, on reprend le classement de l'an dernier pour déterminer les places européennes. Il a bien conscience qu'il a déclenché un tsunami contre lui, Jean-Michel Aulas. Du coup, il fait quand même un peu amende honorable. On écoute.
Le journal Le Monde, qui a toujours des réflexions plus stratégiques que sportives, m'a interrogé pour savoir, dans l'hypothèse où le championnat ne pourrait pas reprendre, qu'est-ce qui se passerait et s'il y avait une jurisprudence. Donc j'ai indiqué qu'il y avait peu de jurisprudence et j'ai indiqué aussi que, bien entendu, on souhaitait, comme tous nos autres collègues de Division 2 et Division 1, terminer le championnat pour des raisons économiques qui sont évidentes, mais que dans l'hypothèse où on ne pourrait pas reprendre le championnat, que probablement il y aurait... ce qu'on appelle une année blanche, que Lyon soit qualifié ou que Lyon ne le soit pas, ce n'est pas le sujet à partir du moment où il y a une pandémie. Oui. C'est une règle générale et le monde avait vraiment compris que la réflexion qui devait être apportée aux gens qui ne connaissent pas oui, les règlements, alors... c'était de poser la question générale. Et, donc et moi, ça, j'ai répondu sans aucune arrière-pensée.
Voilà. J'ai répondu sans aucune arrière-pensée, dit Jean-Michel Aulas, Jérôme, Daniel, Eric. Est-ce que vous le jugez sincère ?
Non, mais la question, la sincérité, on peut effectivement penser qu'il est sincère de s'être rendu compte qu'il avait fait une énorme boulette. Il peut être sincère de se rendre compte qu'il a pris tout le football français et l'opinion qui va avec, à savoir tous les supporters, dans la tronche. Et il peut être sincère de s'être retrouvé face à des gens proche de lui, qui lui ont dit pardon boss, mais là c'est un peu n'importe quoi, donc il faut qu'on revienne en arrière, et il peut être sincère lui aussi, et je l'espère et je le crois, possible de faire un truc pareil, de se dire effectivement, j'ai dit une connerie, ou en tout cas le moment où je l'ai dit, c'est une connerie, parce que son histoire de dire il y a différentes possibilités quand il a rebondi sur Twitter, puisque cet homme-là ne s'exprime que sur Twitter maintenant, on n'y peut rien, enfin en tout cas en premier sur Twitter avant d'aller dans les médias, il a rebondi sur l'avis de Pierre Rondeau, là, notre économiste, qui disait qu'il pouvait y avoir différentes possibilités et différents cas de figure si le championnat ne va pas à son terme. Lui, il rebondit dessus en disant ah mais oui, peut-être, effectivement, oui, sauf que toi, ce que tu évoques, ça n'est que ceux qui vont dans ton sens. Ça n'est que tout le temps dans ton petit intérêt. Et au moment où tu l'as dit, c'était dégueulasse de le dire. Et ça, c'est clair et net. Alors oui, j'ai envie de te croire sincère parce que moi, de prime abord, c'est comme au poker. Moi, je crois pas qu'on me bluffe et je crois pas qu'on n'est pas sincère. Je crois toujours à la sincérité des gens. Donc, je veux bien croire qu'il s'est rendu compte être allé beaucoup trop loin et que il, puisque je crois finalement que c'est ça qu'il dit, qu'il y aura des réunions quand tout rentrera dans l'ordre et que à plusieurs autour d'une table, ils décideront de la meilleure solution. Et dans ces solutions possibles, il y a, oui, le fait, parce que ça fait partie, vu qu'il n'y a pas de règles, il aura le droit de dire bon ben on prend le classement de l'année dernière ou celui sur les 3 ou les 5 dernières saisons. Évidemment, il a cité également celle-là parce que ça lui convient.
Oui, ok, bah, ça pourrait être sur le podium en l'occurrence.
Ça pourra être mis sur la table et décidé par le plus grand nombre à ce moment-là. Ok, alors, pourquoi pas.
Jérôme, voilà. Eric, tiens Jérôme, ton avis à toi, sincère ou pas?
écoute, sincère, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il, comme le dit Daniel, c'est qu'il, ils disent oui, j'ai été maladroit, parce qu'il a vraiment été maladroit. Après, qu'il soit sincère aujourd'hui, en revenant un petit peu en arrière, parce que, on lui a pas tiré les oreilles, mais on lui a rappelé que, en effet, la déferlante médiatique qu'il a pris par rapport à, aux dernières, à son dernier discours, était assez logique, et donc il revient un petit peu en arrière, mais en aucun cas, je l'ai écouté tout à l'heure, il s'excuse, en aucun cas il dit oui je suis allé trop loin, comme dit Daniel, et à juste titre, mais on en a déjà parlé en fin de semaine dernière, c'était jeudi soir, où on a plus ou moins appris que Jean-Michel Aulas avait déjà commencé à regarder ce qui pouvait se faire, éventuellement se faire. Bon, déjà je pense que c'est très maladroit par rapport au contexte qu'on est en train de vivre, qu'il y a d'autres chats à fouetter, et que aujourd'hui, quand l'occasion sera mise en avant pour voir quelle issue il peut y avoir à ce championnat, s'il se finit ou pas, et là oui il y aura des éventualités, mais comme par hasard une des seules éventualités qui met en avant, c'est celle qui l'arrange, et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, je sais pas les décisions qui seront prises prochainement, mais ce qui est sûr, c'est que ça serait dégueulasse de dire au club après 28 journées, écoutez, stop, on gèle tout et puis on annule tout. Non, il y a déjà eu
ça, je pense, Jérôme, que personne ne l'acceptera, c'est-à-dire d'effacer, d'écraser tout ce qui s'est passé. Ça n'arrivera pas. Voilà. Donc après, que lui. Alors le truc du midi à sa porte où il prêche pour sa paroisse.
Attends Daniel, okay. Eric t'as pas donné son avis.
Vas-y, pas de problème.
Ouais. Juste rappeler en gros les propos de Jean-Michel Aulas, ce qu'on peut lui reprocher, outre le fait de tenir de tels propos, évidemment, dans ce contexte. Comme disait à l'instant Jérôme, c'est totalement déplacé. Il disait, le plus logique serait de dire, on annule tout et on repart sur la situation du début de saison. C'est ça qu'on peut lui reprocher, de dire le plus logique, mais pour qui? Pour non, c'est pas du tout
pour
logique.
Lui.
Oui, pour lui, oui, effectivement, quand on fait le bilan après.
C'est plus logique, ouais.
Mais non, il y a rien de logique là-dedans. Ce soir, Nantim Dugas, il a dit qu'il n'avait milité pour aucune solution.
C'est un mensonge, Eric. Mais ça, par exemple, c'est un mensonge.
Par rapport à ce qu'on disait à l'instant, quand il parle de plus logique, oui, peut-être. Après, il a évoqué le fait de se baser sur un classement dit historique sur les 3 ou les 5 dernières saisons. Ce qu'il a voulu faire ce soir au sein de Team Dugas, comme l'a dit Gilbert Teller, c'est de faire amende honorable. La solution, et d'ailleurs Jean-Michel Aulas l'a dit également dans Team Dugas, c'est la fédération qui prendra cette décision.
Oui, en précisant qu'il est vice-président de la Fédé quand même. Donc, en tant que vice-président de la Fédé, je pense pas que Noël Le Graët.
Et il est proche de Noël Le Graët aussi.
Dans son bureau, dans son canapé, à Guingamp.
Il est proche de Noël Le Graët. Il est proche de Noël Le Graët. Très proche même. Hein. Donc, il faudra voir un petit peu la solution qui sera retenue. Et encore une fois, on le redit, comme il n'y a pas de règlement, tout pourra être envisagé et tout sera discuté. Mais je crois pas, à aucun moment, il me semble que ce sera accepté par qui que ce soit d'écraser tout ce qui s'est passé. Alors après, il faut être tout à fait honnête, je l'ai déjà dit l'autre jour, qu'on vienne avancer qu'il restait quand même 30 points et que ces 30 points, il peut se passer beaucoup de choses dans une fin de saison et que ces 30 points à distribuer pouvaient lui permettre éventuellement de retomber sur ses pieds, ça aussi, ça devra peut-être s'écouter. Mais il y aura un vote du plus grand nombre. Et lui, il sort du bois le premier pour dire ça. Non, je
ouais,
je
et
peux
puis
pas,
Daniel,
je
peux tu pas. Dis tu bon, dis que
Jérôme, il après il j'ai une question à vous poser à tous.
Il est proche de Noël Le Graët, OK, mais ça a pas empêché Noël Le Graët de recadrer autant Jean-Michel Aulas que
il a le droit de faire son boulot quand même, Jérôme.
Oui, mais bon, donc
mais d'ailleurs, je vois pas pourquoi il a recadré Héros, hein. Qu'est-ce qu'il avait fait Héros? Ouais, à part se défendre d'une attaque innommable. Non, mais il avait rien fait, Héros.
Peut-être d'avoir comparé Jean-Michel Aulas à Fidel Castro.
Oui, je crois que le leader Maximo, il a pas aimé. Alors attendez, petit tour de table rapide. Dans l'hypothèse où le championnat ne reprend pas, quel est pour vous, pour chacun d'entre vous, la meilleure solution? Moi, je vous donne la mienne. Moi, c'est ça s'arrête maintenant. On prend le classement de maintenant.
Voilà. Pareil pour moi.
Voilà.
On fige la situation. Voilà.
Et à la limite, on peut peut-être remonter une journée en arrière parce qu'il y a un match qui s'est pas joué. Il n'y a pas eu PSG Strasbourg, donc c'est vrai que ça peut avoir des conséquences. Bon, mais on arrête là, quoi. Voilà, moi, la meilleure solution pour moi, c'est ça.
Pour les quatre premiers, je crois que ça ne change rien en plus.
Bah, ce match, on peut le faire jouer. Hein, s'il y en a qu'un à faire jouer, même le 29 juin, à huis clos, tu peux le faire éventuellement. Hein, si c'est juste ça qu'il faut faire.
En fait, ce match-là, il peut avoir des incidences financières pour Strasbourg, parce que si Strasbourg, d'aventure, arrive à gratter un point ou deux, ça fait 10 millions en plus en droit télé, quoi. Voilà. Le PSG, ça ne changera rien pour lui, parce qu'il sera toujours premier.
Ça ne changera rien.
Voilà.
Marseille sera toujours deuxième. Et Rennes, troisième.
Oui, voilà.
Donc et Lille en Europa League.
Alors, si, je rappelle, là, on pose la question, si d'aventure, ça ne reprend pas, ce que personne ne souhaite, évidemment. Mais, Jérôme, toi, ta solution, c'est quoi?
Ça me paraît la plus logique, c'est celle-là. Tu ne peux pas effacer 27 ou 28 journées de championnat, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est malheureux pour les équipes qui ont envie de se refaire sur les 10 derniers matchs, comme l'Olympique Lyonnais, par exemple. Mais le classement, aujourd'hui, il est quand même en plus de ça. Si dans notre malheur, c'est cette solution-là qui est retenue. Il y a quand même un écart qui est conséquent entre Toulouse et Amiens en fin du classement. Donc ça me paraît assez logique. De toute façon, ces deux équipes-là descendent suite à l'arrêt du championnat après 28 journées. Et comme le disait Eric, le haut du classement, il est assez clair. Le PSG va être champion. Ouais. De toute façon, ça c'est l'Olympique de Marseille a fait ce qu'il fallait pour assurer sa deuxième place, quasiment. Et derrière, c'est la bagarre entre Lille et Rennes, mais ben c'est comme ça. Aujourd'hui, les équipes, elles avaient qu'à. Tu fais pas. J'en ai assez fait des championnats. Tu fais pas un championnat en se disant, même si on parle souvent de dernière ligne droite sur les 10 derniers matchs, en se disant, même si j'ai du retard à 10 journées de la fin, c'est pas grave, je pourrais me refaire. Non, toutes les équipes font le mieux possible pour à la 28e, à la 29e, à la 30e journée être le mieux placé possible. Et aujourd'hui, ça serait si c'est cette réalité-là, c'est la plus logique. Et la plus honnête. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer comme ça 28 journées de championnat, ce n'est pas possible.
Alors, et si. Moi, je n'ai pas répondu, Gilbert.
Ah oui, c'est vrai, tiens.
Ah oui.
Vas-y, tu as déjà beaucoup parlé. Antoine, c'est 32-16, vas-y.
Donc, oui, je ne pense pas que ce soit la solution idéale, mais je pense que c'est la moins pire de garder tout en l'état. Maintenant, je.
Pourquoi pas idéal?
Pas idéal parce que. Parce que malgré tout, parce que l'idéal c'est de finir et que malgré tout il y a 30
si
points
ça
et que
je peux là, entendre je te parle.
Que oui non mais si ça s'arrête là évidemment, mais que je peux aussi entendre l'argument qu'il reste 30 points à jouer et que t'as le droit dans une course de remonter sur la fin. Donc oui, ma solution numéro 1, c'est on prend le classement en l'état à la 28e journée. Maintenant, si des gens scientifiques du calcul arrivent à me dire qu'on peut pondérer avec autre chose. Je dis pas que j'approuve, mais je veux bien écouter au moins, parce que je suis ouvert et tout. Je veux bien écouter une pondération possible avec quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je veux bien écouter. Mais si et après dire si c'est pas convaincant, on prend le classement en l'état comme il est, et puis la course elle est finie. Quoi.
Le problème, Daniel, c'est que on peut pas pondre quoi que ce soit dans les semaines qui viennent. Les règlements, parce qu'il y a un vrai vide juridique. Les règlements ne prévoient pas l'arrêt définitif du championnat.
Non, mais je sais. Mais dans une réunion.
Oui, on peut discuter, mais je pense que ça va être compliqué de trouver une solution qui fasse l'unanimité. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel Aulas, tout à l'heure dans Team Dugas, il faut souhaiter vraiment, et là on le rejoint et on est tous d'accord, la meilleure solution, c'est de terminer dans la mesure du possible ce championnat pour des raisons sportives évidemment, pour des raisons économiques évidentes, les droits télé, les contrats de sponsoring, et je pense que là tout le monde sera d'accord pour dire oui, il faut aller jusqu'au bout.
Gérard Lopez était également dans le team du gars, lui aussi souhaite absolument terminer, ça c'est évidemment la volonté de tout le monde. Il y a une petite nouveauté quand même, c'est que depuis la semaine dernière, on parle de la date butoir du 30 juin. Cette date butoir du 30 juin, elle est en train un peu d'exploser parce que en gros, les présidents de club disent à la limite, s'il y a 15 jours à faire en plus, on fait des avenants au contrat, il y a moyen de s'arranger.
Ouais,
quoi.
Ça, c'est pas bien grave. Hein.
Voilà, donc ça peut.
Oui, mais t'as raison de le dire parce que dans un premier temps, ça semblait réellement devoir bloquer les choses parce qu'il y avait les contrats de joueurs, il y avait les prêts, il y avait toutes ces choses-là. Donc c'est bien déjà qu'il y a eu une petite avancée là-dessus. Tu fais bien d'en parler parce que ça semblait devoir bloquer quand même.
Le droit du travail permet justement cette dérogation parce que nous sommes dans un cas de force majeure.
Alors, on va tout à l'heure parler de ce qui va se passer demain à l'UEFA. Mais d'abord, j'aimerais qu'on accueille Antoine au 32-16 qui est supporter lyonnais. Salut Antoine.
Salut, bonsoir à tous.
Bonsoir Antoine.
Tu penses que Jean-Michel Aulas était sincère? Tu penses qu'il aurait dû aller plus loin en disant, écoutez, je m'excuse si mes propos ont été mal interprétés? Parce qu'il n'a pas dit ça, il ne s'est pas excusé. Tu vois.
Totalement. Moi, je suis pour. Enfin, je te rejoins. J'aurais souhaité qu'il s'excuse, mais j'aurais surtout souhaité qu'il la ferme, qu'il dise plus rien, qu'il dise rien déjà dès le début, parce que là, il a foutu la honte à tout un club. Moi, je vais pouvoir parler avec plein de supporters, pour les suivre sur les réseaux sociaux, les gros groupes de supporters, etc. Tout le monde avait honte. Tout le monde avait honte des propos de Jean-Michel Aulas en disant mais comment il peut oser tirer la couverture.
Tu as senti ça chez une majorité de supporters lyonnais?
Bien sûr, sur les réseaux sociaux, par exemple, vous suivez tous les gros comptes lyonnais qui sont un peu connus. Tout le monde disait mais tais-toi. Ça répondait à chacun de ses tweets en disant mais reste dans ton coin, arrête de nous afficher. Enfin, c'était vraiment un sentiment réel de honte en disant comment dans ce moment-là il peut réagir aussi vite pour ramener la couverture à lui. Enfin, c'était invraisemblable. Vraiment, on est tous tombés des nues et je répète, on a eu honte de ce comportement-là dans une période, pour reprendre les mots de notre président, d'une période de guerre, quoi. Donc c'est incroyable.
Bon, tiens, alors, Antoine, bouge pas. Faut quand même qu'on écoute un autre morceau de l'intervention de Jean-Michel Aulas, parce qu'il en veut à Jacques-Henri Hérault suite à la fameuse tribune là, du Journal du Dimanche dont on a parlé tout à l'heure. Il va porter plainte en diffamation contre Hérault. Écoutez.
Les avocats que j'ai consultés encore aujourd'hui vont attaquer en diffamation. C'est diffamatoire. On a voulu me faire passer pour quelqu'un qui se préoccupait du fait que l'Olympique Lyonnais ne jouerait pas, la Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais on a oublié une chose. C'est que il reste 10 matchs, il y a 30 points à prendre. C'est encore possible de revenir. Qui joue la finale de la Coupe de la Ligue cette année contre le Paris Saint-Germain et qui peut accéder du coup à la Coupe d'Europe? Et si même on la gagne pas et que Paris la gagne, ça veut dire que le 6e, peut-être le 7e, va être européen. Qui aujourd'hui est qualifié en Champions League pour un match retour contre la Juventus? Vous croyez pas que j'ai plus intérêt que d'autres à finir le championnat et à finir les compétitions? C'est pas acceptable qu'on laisse penser que ceux qui m'attaquaient ne l'étaient pas. Et en fait, c'est exactement l'inverse. C'est ceux qui m'ont attaqué, y compris en diffamant, qui ont laissé penser qu'on était plus intéressé par le classement de Lyon que par l'intérêt général. Alors qu'en fait, c'est l'inverse.
Voilà la défense de Jean-Michel Aulas. Donc,
on va dire que c'est pas convaincant et que je ne crois pas une seconde qu'il ait pensé à l'intérêt général.
Il a mis des tacles glissés à Héro par ailleurs, hein, en disant oui, moi je suis dans le foot depuis 34 ans, contrairement à certains. Et puis moi j'ai investi mon argent, contrairement à certains.
Mais c'est ridicule. Voilà. Il peut pas lui rentrer dedans comme il l'a fait. Il peut pas dire qu'il va l'attaquer en diffamation. Mais ce qu'il a fait, c'est pire que de la diffamation. Et puis je vois pas en quoi Jacques-Henri Héro l'a diffamé. C'est quoi, genre de dire qu'il a pensé à son intérêt perso plutôt qu'à l'intérêt collectif? Ça fait 30 ans qu'il fait ça, de penser à son intérêt plutôt. Mais il croit qu'on sait pas, qu'on n'entend pas les autres présidents, comment ça se passe dans les réunions. Il sait pas que les gens nous parlent à la Ligue, dans les réunions, les présidents de club. Il sait pas ce qui se dit sur lui. Mais c'est une blague ou quoi?
Antoine, tu veux réagir?
Ah non, mais encore une fois, il est dans le déni, il ment, de toute façon, comme il ment à tout le monde, comme il ment à ses supporters, mais j'espère sincèrement que les classements s'arrêteront là, qu'on se retrouve hors des courses Europe, qu'il paye un peu les pots cassés de cette directive sportive des derniers mois, des dernières années, et puis ça lui fera les pieds. Sincèrement, on en a un peu tous ras-le-bol. À une époque, les supporters lyonnais étaient vachement derrière leur président, à le défendre bec et ongle. Et là, la tendance s'inverse pour lui. Et puis un jour, il le comprendra et peut-être qu'il le comprendra trop tard.
Merci Antoine. Bonne soirée à toi. Dans quelques instants, on est de retour. Je vous donnerai les dernières infos avant la réunion de demain à l'UEFA. On en a longuement parlé jeudi dernier avec Dominique Courdier. C'était très intéressant. Il y a quelques petits éléments en plus qu'il faut savoir. C'est tout de suite dans l'after. Et puis ensuite, on parlera de l'AS Monaco, supporter de l'ASM. C'est votre soirée. Hein. Ce soir, on en parle avec Eric Huette, Jérôme Rotten. Là, on a la fine fleur de l'AS Monaco.
Il y a du lourd.
Il y a du très lourd. Allez, à tout de suite dans l'after. On est là jusqu'à minuit, bien sûr, avec vous, comme tous les soirs.
RMC, 21h30. L'after foot, Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rantel, avec Eric Huette qui est avec nous ce soir. Bien sûr, on est là jusqu'à minuit, on le rappelle, hein, bien sûr, avec vous, uniquement à la radio, donc dans les jours qui viennent, pendant cette période sans match. Évidemment, n'hésitez pas à nous appeler, le 32CG est toujours ouvert, le hashtag RMC Live sur Twitter pour réagir avec nous. Direct Studio également, pas mal de réactions déjà après notre premier débat sur Direct Studio. Pour l'équité, il faut finir le championnat, dit Hakim, évidemment. Évidemment, les avenants au contrat, ben oui, voilà la solution. On peut même aller plus loin encore que mi-juillet, nous dit Seb. Voilà. Et puis Mamad qui nous dit Jean-Michel Aulas a surtout été très maladroit. Mais en sortant de la considération lyonnaise, l'histoire de la saison blanche peut se défendre, dit Mamad. Donc lui, il veut essayer d'élever un peu le truc.
Après, mais peut se défendre, et c'est quoi? Parce que c'est facile de dire ça, mais peut se défendre avec. Et c'est quoi l'argument de ça peut se défendre? Qu'est-ce qui peut défendre l'idée qu'on efface 27 journées ou 28 journées?
Bah lui, après, peut. Alors, il donne pas plus d'arguments.
Bah mais ouais.
Il est vrai que si, par exemple, cette proposition vient d'un président de club, on va dire, désintéressé par l'affaire, je sais pas moi. Qui je peux citer au hasard.
J'ai bien compris, mais le problème, c'est
peut-être
que.
Peut-être qu'on la prend pas de la même façon.
Bah oui, le problème, c'est que, par hasard, elle n'est pas venue de là, quoi.
Oui.
Mais c'est un peu toute la question.
Si c'est Laurent Nicolin qui fait la proposition. Alors, Arnaud, il est concerné par la Coupe d'Europe, lui, donc il n'est pas désintéressé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est désintéressé dans cette histoire.
Ben voilà. Bon. Voilà. C'est pour ça qu'il faudra une réunion pour prendre une décision, si malheureusement.
Si Saïd Chaban l'avait dit, non, mauvais exemple aussi. Si Kita avait dit, moi, je veux une saison blanche.
Non, il dit, mais t'as pas de bon exemple là-dessus, parce qu'en fait il n'y a rien qui peut motiver qu'on veuille écraser 28 journées.
Oui,
en fait il y a pas d'argument qui se tienne, si ce n'est le seul, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de dire il restait quand même 30 points. On a tous le droit de les prendre, les 30 points, et de faire une remontée. Ça, c'est le seul argument valable. Qu'est-ce que tu peux faire pour compenser ces fameux 30 points qui restaient encore à distribuer? De quelle façon tu peux pondérer ce truc-là? Si tu trouves une solution à ça, moi j'écoute. Si tu trouves pas de solution à ça, eh bien il y a rien à écouter. Tu gardes le classement en l'état. Ça me semble tout à fait logique.
Alors,
mais comme je suis pas mathématicien et que tu sais bien que je manie très mal les chiffres, je vois pas comment tu peux pondérer. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ces 30 points? Les distribuer en fonction des 3 ou des 5 dernières années? Pourquoi pas? Je sais pas, il doit y avoir un calcul à faire là-dessus. Ça doit être jouable, hein.
Ouais, bah, je crois qu'il faut, tu sais, plus c'est compliqué et plus c'est sujet à débat, et derrière, donc faut faire un truc très simple. C'est surtout ça la solution, à mon avis, si jamais la saison se termine pas. J'aimerais maintenant qu'on passe à la réunion de demain matin, à l'UEFA.
Ah, c'est le matin finalement?
Oui, pourquoi t'as cru que c'était l'après-midi?
Ouais, je pensais que c'était l'après-midi.
Bon, pour nous, a priori, c'est demain matin. L'une, c'est du détail. A priori, ce sera lourd, donc ça peut aussi commencer le matin et se terminer l'après-midi. On avait Dominique Courdier qui nous a expliqué dans le détail jeudi dernier qui serait là, quelles sont les différentes influences, les hommes de pouvoir qu'on va vraiment écouter, en l'occurrence les principales fédérations, les principaux dirigeants de clubs, Agnelli notamment. Aulas, vraisemblablement très écouté, prendra la parole demain. Nasser El Khelaifi sera également présent. Ce qu'on peut ajouter comme info qu'on n'a pas donné jeudi dernier, c'est que toutes ces décisions qui seront prises demain entraîneront un CA de la Ligue qui sera programmé dans la foulée, pour tenter d'élaborer d'ores et déjà un semblant de calendrier. Donc ça veut dire que si tout va bien, s'il y a une harmonie européenne comme ça semble être le cas qui est en train de se dessiner là, on pourrait peut-être demain soir à la même heure débattre d'une ébauche éventuelle de calendrier de fin de saison.
Quand tu dis tout va bien, pardon Daniel, quand tu dis tout va bien, Gilbert, c'est que l'Euro serait reporté.
Tout va bien dans la réunion déjà.
Voilà.
Et évidemment, le prérequis qui semble aujourd'hui demandé par tout le monde, parce que ça c'est l'autre info, tout le monde se positionne. Hein. La Ligue allemande dit on veut un report de l'Euro. L'Italie dit on veut un report de l'Euro. En fait, toutes les grosses fédérations sortent du bois là aujourd'hui. La France l'a dit aussi en disant nous, on le veut tous. Voilà.
Et c'est parce que le nerf de la guerre, l'économie du foot, repose avant tout sur les clubs. Donc les clubs, c'est logique qu'ils aient plus de poids et qu'ils disent, bon, ben, on reporte l'euro parce qu'il faut qu'on termine notre vie, notre pain quotidien. Avant, mangeons notre pain quotidien avant d'aller manger le dessert. Le dessert, c'est l'euro. Donc, comme ils veulent finir, eh ben, ils vont essayer de trouver des solutions. Et je pense qu'ils vont tabler leur histoire de calendrier sur l'idée que ça va durer 2 mois. Et je pense qu'ils vont raisonner comme ça. Ils vont faire 2 mois.
C'est-à-dire mai-juin.
Et pourquoi pas mi-mai,
mi-juillet, si jamais la crise du coronavirus dure.
Ils vont faire en sorte qu'à partir du 10 mai, ils vont envisager, imaginer, et souhaitons tous que ce soit le cas, qu'en gros, autour du 10 mai, tu puisses rejouer au foot. Voilà. Et en fonction de ça, ils vont même élaborer le calendrier Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on fait avec les 8 dernières équipes, on fait un play-off, un truc dans le genre. Voilà. Sur un match. C'est ça qu'ils vont faire.
Alors, par ailleurs, si l'Euro est décalé d'un an, l'UEFA renoncerait à l'édition 2020-2021 de la Ligue des Nations. Vous savez, cette nouvelle compétition.
Ah oui, ça, on s'en fout un peu. Hein.
Bon, qui plaisait, hein, parce que ça fait autre chose que des matchs amicaux un peu tout pourris, il y a un peu d'enjeu. Donc ça passerait à la trappe. C'est pas bien grave. Voilà.
C'est pas bien grave économiquement pour eux, oui. Y a une perte,
mais comme c'est un truc, c'est un truc que t'avais pas. Bah, c'est un truc que t'avais pas, tu l'as pas. Si toi tu vas t'acheter une nouvelle chemise et puis qu'en arrivant à la maison, tu l'as plus.
Il y a eu déjà une édition. Qu'est-ce que tu me racontes?
Ah, mais je pensais que tu parlais de la nouvelle compétition, la Ligue des Nations de, des pays, là, le truc de tout pourri de l'année dernière, là, que seul Nico Villas a compris. Là. Non, mais même toi, tu ne regardais pas, tu ne savais pas ce que c'était. Je pensais que tu parlais de la nouvelle compétition. Non. D'un nouveau truc là, il y a pas un, il était pas question d'une nouvelle compétition.
Ah, tu parles de l'Europa League Conférence, la conférence.
Non, ouais, un truc comme une sorte de championnat du monde des clubs, championnat du monde des clubs.
Ça c'est Dominique Courdier qui nous a expliqué ça.
Championnat du monde des clubs qui a été vendu à la Chine et tout déjà.
En fait, l'UEFA peut prendre des décisions, mais attention, la FIFA doit valider tout ça parce que la tutelle absolue c'est la FIFA. Or la FIFA a déjà calibré, vendu à des sponsors, à la Chine, le mondial des clubs, qui donc viendrait en frontal avec l'euro.
Il faut qu'elle accepte de décaler cette nouvelle compétition.
Ou alors, mais de toute façon, si les clubs veulent pas, Infantino, il va faire quoi? Il va la faire, sa compète, et puis ils enverront des remplaçants pour faire cette compétition de clubs. Hein. Si les clubs, en plus, qui étaient pas vraiment chauds pour la jouer, cette compétition, déjà à la base, je pense qu'ils auront envoyé des équipes B. Mmh. Donc Infantino, faut pas non plus qu'il gonfle tout le monde, hein, parce que sinon les mecs ils vont dire bah attends t'es gentil, nous nos clubs on va pas envoyer notre vraie équipe, et puis voilà, puis tire à faire croire aux Chinois que c'est des vrais joueurs les mecs qu'on te met, puis ils vont mettre la réserve.
Alors ouais. Par ailleurs, sur le discours des présidents, j'y reviens deux secondes quand même.
Peut-être on pourrait envoyer Jérôme d'ailleurs.
Pour vous dire.
Faire croire qu'ils sont encore un joueur professionnel.
Non, là c'est plus possible.
Bah, peut-être que les Chinois ils savent pas. Hein, mais... ouais. On te refait pousser les cheveux.
T'as raison.
On te met une perruque.
Et on te met un petit peu de botox pour que tu sembles plus jeune. Et puis hop,
on
ça passe.
On peut aussi envoyer Fred Piquion.
Mais bien sûr, attends, on fait croire que c'est un club. Hein, voilà. Bon, Fred, il peut encore passer pour un joueur de foot.
Pierre Ducrot, je suis pas sûr qu'on puisse l'envoyer. Parce que
Pierre, c'est mort. Pierre,
ça veut dire quoi? T'es un con, toi? Ça veut dire quoi? Alors moi, j'ai besoin de botox et Fred Piquion. Non, il a encore l'allure, lui. Attends. Mais qu'est-ce que tu me racontes?
Il ressemble plus à un joueur de foot que toi aujourd'hui.
Ah bon?
Mais bah, dans quel Freud, sens? T'as vu comment il est? Bah, il dit pas, il est encore.
Je suis pas fit, mais il est plus jeune que toi. C'est une honte.
Jérôme le prend pas mal, il est plus jeune que toi. Quoi.
Pierre Ducrot, avec son bide, il est un peu hors jeu.
Pierre, sujet.
Attention,
en fait, c'est Botox. Pierre, c'est Botox et liposuction. Donc, c'est compliqué.
Non, Pierre Ducrot, il faut l'envoyer deux semaines à Merano, là, chez Chéneau, là, avec Romain.
Non, ça suffira pas 15 jours.
Parce que Pierre.
Tu mets 15 jours sous bouillon et peut-être après.
Pierre, 15 jours en défense centrale, ça peut le faire.
Qui?
Pierre, à l'expérience en défense centrale.
À l'expérience de quoi, s'il peut plus bouger? À l'expérience de la charrette?
Ouais, non, là, non.
Pierre, il a chopé la maladie du frigo.
Il n'est pas là, il ne peut pas se défendre, arrêtez de vous acharner. Bon, je reviens à mon histoire de l'euro. Par ailleurs, les matchs.
T'es au courant, Jérôme, il a cassé la poignée du frigo, Pierre. Non. Ouais.
Bah oui, sa femme a mis un cadenas dessus et il a fait sauter ce con.
Il est au pied de biche, il a fait sauter au pied de biche.
Tu comprends pas avec Jean-Louis?
Hein? Tu
comprends pas avec Jean-Louis?
Jean-Louis aussi, il l'a eu à une époque.
Très très inquiet, Jean-Louis.
Pourquoi il est très inquiet?
Parce qu'il se dit comment c'est pas possible, je vais prendre 15 kilos pendant un mois, tu vois.
Ah oui, il s'est compris en écoutant Tim Dugas tout à l'heure.
Il s'est confié en Tim Dugas tout à l'heure.
Et Abdo, il connaît pas du tout.
Ah oui, Jean-Louis, il va rester. Bah oui, je suis con, mais évidemment, il va rester à la maison. Oui. Oh là là, j'avais pas du tout pensé à ça. Oh mon Dieu.
Bon, bref.
En même temps, peut-être qu'il a pas. Je sais pas, il a mis les entrecôtes au congélo et tout, parce que c'est surtout ça son petit déchet. C'est ça, ouais. C'est à la maison, si sa femme a pas fait des courses, qu'est-ce que tu bouffes?
Faut que Madame Tour s'en occupe, qu'elle serre la vis. Sinon, les matchs amicaux de fin de mois vont sans doute être annulés, hein, évidemment. Et puis, les barrages de l'euro, donc voilà les dernières petites infos qu'on peut vous donner.
Franchement, les matchs amicaux des Bleus, c'est vraiment le dernier truc que je vais regretter.
Mais pour l'instant, ils n'ont pas été officiellement annulés, en fait. Tu vois, donc on attend.
Mais comment ça se fait que c'est pas officiellement annulé?
Ouais, c'est comme ça. Bon, c'est peut-être Le Graët,
C'est vachement étonnant, non?
Ouais. Juste, alors, sur la Bundesliga, on aura tout à l'heure Paulo Breitner, mais ils ont fait un truc assez étonnant, quand même, les Allemands, parce que globalement, toutes les grandes ligues ont suspendu jusqu'à nouvel ordre. Hein. Les Allemands, ils disent non, nous, on arrive jusqu'au 2 avril. Bon, donc, je sais pas, ils ont une vague d'optimisme, peut-être.
Et en même temps, Gilbert, le Sénat de Berlin a ordonné qu'il n'y aurait aucune compétition sportive jusqu'au 19 avril.
Bon, très bien. Donc,
Mais ça, c'est normal, parce que c'est mon anniversaire le 19 avril.
Ah, c'est pour ça.
Ça n'a aucun rapport, mais voilà.
Très bien, on l'a noté. Et Paulo sera avec nous tout à l'heure pour nous en parler. Attendez, du coup, tu m'as fait oublier une dernière info que je voulais vous donner. Bon, c'est pas grave. Ah. Elle me reviendra un petit peu plus tard, sans doute. Les présidents de club de Ligue 1, ça je voulais pas aller tout à l'heure, tiennent tous à finir, quitte à ce soit à huis clos. Ça, c'est quand même important. Donc peut-être qu'il y aura un moment où l'économie va remarcher, où les mesures prises vont être levées, mais on continuera peut-être de jouer à huis clos et ça permettra de finir peut-être à huis clos. Donc il a pas du tout dit qu'on puisse finir avec du public. Bon, voilà.
Ouais. Donc, oui, on a bien compris que la priorité, ouais, c'était vraiment de finir, quoi qu'il en soit, et peu importe
ça,
comment.
Pour Monaco, c'est pas trop un problème. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants.
C'est vrai.
Eric de l'AS Monaco. Est-ce toujours un club de foot ou bien uniquement une machine à fric? 32-16. Supporter de l'ASM, on vous attend au 32-16 maintenant. Dossier spécial Monaco qui a été demandé sur le hashtag MonAfter par de nombreux supporters de l'ASM. Et voilà, on vous a écouté. C'est tout de suite. On se retrouve dans quelques instants.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
On est là, l'after jusqu'à minuit, l'after qui continue avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotel, avec Eric Huette ce soir. Je le rappelle, si vous nous rejoignez, l'after continue évidemment pendant toute cette période sans match, avec vous au 32-16, avec des contenus différents bien sûr, et avec vous au 32-16. On va parler de Monaco, les gars, donc avec Jérôme bien sûr, finaliste de Ligue des Champions entre autres, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Monaco, avec Eric Huette qui a vu à peu près 1402 matchs de l'AS Monaco depuis quand, ton premier match, ton premier souvenir avec l'ASM, c'est quoi?
Le titre en 78.
Ah oui,
j'étais même vraiment gamin. Voilà.
Très bien. Donc ça date, effectivement.
Ça date.
Il y en a un autre qui suit Monaco et depuis peu, c'est Jordan Olivier, jeune reporter, bien implanté désormais sur la Côte d'Azur. Jordan qui est avec nous, salut!
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Alors, on veut faire ce débat depuis un moment, parce que, pourquoi Monaco, évidemment, est un club historique du foot français. Je ne vais pas vous refaire le palmarès, qui est un des plus beaux de notre football. Je ne vais pas vous refaire la liste des joueurs qui ont été formés à l'ASM, de ce que représente ce club. On ne va pas refaire non plus le débat la légitimité ou pas pour Monaco, qui n'est pas en France, d'être dans le championnat de France, avec les avantages fiscaux et compagnie. Non, l'idée, c'est de parler ce soir du modèle développé par les nouveaux propriétaires russes, à savoir ce modèle trading qui a été le premier en France, finalement, les premiers à revendiquer ça et à en faire finalement un modèle un peu pour les autres clubs de Ligue 1. Est-ce que Monaco est toujours le club qu'on a connu, donc qui a porté au football français, qui était un club de football de référence, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est uniquement une machine à faire de la thune, à prendre des joueurs parfois qui jouent même pas en équipe première, les revendre avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit, avec des effectifs pléthoriques, avec des directeurs sportifs qui touchent sur chaque transfert dans leur contrat. Bref, un modèle totalement différent de la SM historique qu'on a connu. Le 32-16 est ouvert pour débattre de tout cela, bien sûr. Je sais que ça fait débat parmi les supporters monégasques. Donc, on va y aller ensemble. J'aimerais que Jérôme prenne la parole en premier. Ensuite, on la donnera à Eric et après à Daniel. Vous êtes plus légitime que Daniel et moi pour en parler dans un sens, même si on a nous aussi notre avis. Jérôme, qu'est-ce que tu réponds à cette question? C'est toujours un club de foot ou c'est juste une machine à pognon?
Écoute, la politique a évolué. Déjà, elle a évolué. La politique sportive, bien sûr, elle a évolué parce que la famille Princière a décidé de céder la grande partie des parts du club, et ça, c'était historique déjà. Donc, à partir de là, l'investisseur qui est arrivé, avait envie. Alors déjà, il a pris un coup dur quand il a acheté le club. Derrière, il y a eu quelques craintes. Qu'il investisse un peu moins dans le club.
Rappelons qu'il rachète le club en Ligue 2.
Ouais, il rachète le club en Ligue 2, mais derrière, ça remonte assez vite. Ça a toujours été très attractif à Monaco, et la politique des Russes, ça a été avant tout de prendre des jeunes joueurs, de les mettre en avant dans le championnat et en Coupe d'Europe. Vu que Monaco est quand même un club qui a habitué à faire des bons parcours en Coupe d'Europe depuis de nombreuses années. Je dis pas parce que c'est moi, parce qu'on avait réalisé cette année en 2004, mais il y en a eu avant, il y en a eu après. Pour preuve, il y a 3 ans, ils étaient encore en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ça montre que ce club.
Tu veux dire, ça reste un club de foot, quoi. Quand tu vois les résultats.
Oui, forcément, parce que avec les moyens qu'ils ont, ils investissent. Alors ils se sont trompés sur certains joueurs, mais il y a d'autres joueurs qui ont donné satisfaction. Le sportif a répondu présent ces dernières années. C'est un peu plus dur là depuis quelques mois, mais ça veut pas dire que ça va pas redevenir un club très sain sportivement. Après on aime ou on n'aime pas cette politique. Moi je suis pas fan parce que je, encore plus à Monaco, je pense que les gens doivent se mettre vraiment dans la vie du club, ce que représente ce club. Tu dois avoir un attachement particulier, et quand tu signes et que t'es un jeune joueur et que tu sais que de toute façon un moment ou un autre, si t'es bon, la priorité du club ça sera de te vendre 3 fois, 4 fois, 10 fois plus, tu t'attardes pas sur l'histoire du club, sur ce que représente l'AS Monaco, et des fois tu le prends dans la tête, et c'est ce qu'ils sont en train de faire malheureusement là depuis quelques mois, où ils ont perdu l'âme de ce club. Pourtant il y a un club sportivement, du moins au niveau des joueurs, qui est quand même impressionnant, hein. Il y a vraiment des bons joueurs dans chaque ligne, ce groupe est très étoffé, mais il manque quelque chose, et ça c'est le risque d'avoir cette politique là de perdre vraiment ce que représente ce club. Et donc je suis pas grand fan de ça, mais aujourd'hui t'es obligé de dire que de toute façon il l'a fait avec réussite, et il a vendu énormément de joueurs. Ils ont fait des bonnes plus-values. Est-ce que au bout d'un moment ça va pas s'essouffler? Et pour après dire bon bah écoutez, moi j'ai fait le maximum il y a quelques années, maintenant je suis dans le dur, bah je vais revendre ce club. Je sais pas, mais en tout cas la politique est différente. Alors après on l'aime, on l'aime pas, comme je te dis, mais okay. Moi je suis là juste pour quand t'es passé dans ce club de Monaco, ou comme quand t'es comme Eric, supporter depuis tout gamin. Monaco, c'est quand même un club qui a toujours eu des équipes très joueuses, et ça il faut pas l'oublier. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que le business a pris le dessus sur ce que doit représenter le club sur le terrain, et ça me dérange un petit peu.
Eric.
Alors pour compléter ce que tu viens de dire, Jérôme, moi je voudrais souligner tout d'abord que sans l'arrivée de Dmitri Ribolovlev, alors évidemment on n'aurait pas ce débat ce soir puisqu'on parle d'argent dans ce débat, mais surtout on ne parlerait peut-être même plus de Monaco. Lorsqu'il est arrivé, Monaco était au fin fond de la Ligue 2. Oui, clairement, il a sauvé le club. Tu disais, Jérôme, c'était pas simple à l'époque parce que, souviens-toi, le prince a mis du temps à accepter que quelqu'un de l'extérieur vienne acheter une grande partie des actions du club, puisque Dmitri Ribolovlev est devenu l'actionnaire majoritaire en détenant un tout petit peu plus de 66%, 66,67% des actions du club. Il y a eu beaucoup de recrues à l'époque pour permettre au club de se sauver, avec Marco Simone comme entraîneur. Puis on a Monaco a acheté Claudio Ranieri pour faire monter le club. C'est ce qui s'est passé en 2013. Et là, on a eu la politique.
Toi, tu dis carrément qu'ils ont acheté un coach, toi.
Non, mais c'était le but, c'était de faire un petit peu comme Paris avait fait en gros avec Carlo Ancelotti, c'est-à-dire de chercher un entraîneur un peu plus déjà avec de l'expérience que Marco Simone n'avait pas en tant qu'entraîneur. Il avait l'expérience de joueur, ça c'est indéniable.
Ton point de vue à toi, tu reconnais ton club de 78 ou dis c'est plus pareil?
Non, aujourd'hui non, ce n'est plus pareil, mais c'est différent parce qu'on a accepté. Je pense que les supporters de Monaco, par la force des choses, ont dû accepter ce qui s'est passé. En 2013, il y a eu la politique des Galactiques de Monaco, avec Falcao, avec Moutinho, avec James Rodriguez, plus Jérémy Toulalan, plus Ricardo Carvalho, pour monter une bonne équipe. Cette politique, elle a été très vite anéantie, parce que Ribolovlev a dû s'apercevoir qu'il ne pouvait pas mettre autant d'argent chaque été. Et à chaque fois que ça a marché, à chaque fois, Monaco s'est tiré une balle dans le pied. Par exemple, en 2015, quand Monaco est allé en quart de finale et qui a éliminé Arsenal en huitième, puis est tombé sur la Juve, et on peut en reparler de ce match, de cette double confrontation et du match retour où les Monégas se sont fait vraiment avoir par l'arbitrage. Derrière, ouais, mais je savais que t'allais réagir, Daniel. Lors de l'été 2015, alors que Monaco est déjà une équipe qui tient la route, c'est parti en vrille. Même remarque en 2017. Avec les Mbappé et compagnie, c'est parti en vrille. Il y a eu un recrutement, c'était un véritable flop. Donc là, le supporter monégasque ne reconnaît plus son club. On ne reconnaît plus l'identité, finalement, qui nous habite depuis qu'on est... alors moi, je parle pour moi, évidemment, depuis que je suis supporter depuis plus de 40 ans. Mais on ne peut pas faire autrement. Il y a eu une stratégie calquée sur ce qui se faisait au Portugal avec Porto. Luis Campos est arrivé à Monaco, a fait des choses remarquables. Les Fabinho, les Bernardo Silva, c'est grâce en partie au travail de Luis Campos. C'était simple. Il a fallu ensuite prendre des joueurs dits bankable, c'est-à-dire on prend des jeunes à fort potentiel, on les fait progresser, on les fait valoriser et ensuite on les revend. C'est une vision mercantile du football, mais malgré tout, malgré cette vision-là, c'est une machine à cash, mais malgré tout, Monaco est encore là, Monaco existe encore. Et on a un petit peu, et j'en finirai sur ce dossier-là, concernant les sommes qu'on peut mettre dans ce club. Heureusement, finalement, que Monaco et les dirigeants, l'été dernier, ont su arrêter de penser qu'aux jeunes. Ils se sont ont pris des joueurs pour encadrer ces jeunes. Ouais. Je pense à Wissam Ben Yedder, évidemment, en tête d'affiche, et qui est aujourd'hui le co-meilleur buteur du championnat.
Daniel.
Bon, bah, c'est long tout ça, hein, parce qu'ils ont beaucoup parlé. Pour moi, Monaco, de toute façon, aujourd'hui, ça ne peut plus être le club que ça a été. Pour moi, Monaco, le Monaco en tout cas que dont parlait Eric de son enfance et que moi j'ai connu aussi, bah, il n'existe plus. Parce que Monaco, pour moi, c'est le club du prince. C'était le club qui était en gros, je le dis sans qu'il faut que ce soit compris de façon péjorative, qui était la danseuse du prince. Passionné de sport, surtout le fils, vrai dingue de football et de l'AS Monaco, qui a toujours tout fait pour que y ait un beau club de foot en principauté. Tant qu'on était dans un football qui n'est pas le football d'aujourd'hui, notre football contemporain, avec tous ces mouvements de joueurs, et qu'on était dans quelque chose qui était un petit peu plus franco-français, Monaco a été accepté historiquement dans le football français. Il y avait un deal historique qui faisait que de toute façon Monaco formait de très bons jeunes et il y en a eu beaucoup des très bons et Monaco a beaucoup apporté au football français. Il y avait des présidents qui étaient des hommes du prince qui étaient là et qui achetaient des joueurs français, donc ça faisait vivre un petit peu l'économie et on acceptait que d'un autre côté il y ait cette inégalité fiscale et que Monaco vive différemment des autres clubs français et tout le monde vivait en harmonie. À partir du moment où, et moi je me souviens très bien quand le club est descendu au début des années de la dernière décennie,
en 2011,
quand le club est descendu, je me souviens à ce moment-là j'avais dit honnêtement le club est mort, le club ne reviendra plus jamais, parce que si le prince peut pas mettre l'oseille pour rivaliser et il veut le vendre ou en tout cas mettre des actionnaires ou d'autres gens qui viennent le gérer, qui voulez-vous que ça intéresse d'aller prendre l'AS Monaco? Tu ne peux pas faire de business, tu ne peux pas développer du marketing, tu n'as pas de public, en fait tu n'as rien sauf un truc qu'à l'époque on n'avait pas sous les yeux, on savait pas trop ce que c'était et qui arrivait après, sauf que bah, des gens eux y pensaient à défaut de nous, le fameux trading de joueurs. Et là il y a eu un Russe qui en plus n'est pas venu que pour le football. Ce Russe est venu et a acheté le club. Mais il a acheté le club pas pour penser au fait que Kvaratskhelia avait dessiné le maillot, que Monaco c'était le glamour, c'était une tradition de beau jeu, c'était un patrimoine du football français qui a vu passer des joueurs et des champions. Non, il l'a acheté d'abord parce que lui il voulait aller à Monaco pour ses affaires personnelles et son business. Et ensuite il s'est dit tiens, dans le football on peut faire du trading. Mais quand il a fait du trading, il est arrivé, il a mis un paquet d'oseilles sur la table pour réussir le coup qui lui a permis 2-3 aventures, un titre déjà, qui c'est quand même pas rien, et deux belles aventures européennes. Mais est-ce qu'il va pouvoir le faire tout le temps? Le problème, c'est que c'est compliqué à Monaco. Tu peux pas vivre. Il y a pas de développement possible pour ce club. À part ça, prendre des mecs. Donc ils avaient trouvé Luis Campos qui a excellé dans ce domaine. Un entraîneur portugais. Ils ont fait leur tambouille à eux. Ils ont réussi à faire vivre le club comme ça pendant quelques années. Mais à chaque fois, tu vas te retrouver confronté à des difficultés. Comment faire vivre Monaco? Qu'est-ce qui peut lui permettre de vivre? C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour un supporter de l'ASM, c'est compliqué parce que le club du passé, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu un club pour les livres d'histoire maintenant et que ça ne pourra plus être un vrai club. C'est une sorte de plateforme de trading désormais.
Bah, voilà, oui, comment ouais, mais j'aimerais que Jordan, puis Jean, tu pourras prendre la parole, t'inquiète, hein, puis on va continuer après 22h. Jordan Olivier, toi qui es au contact du club aujourd'hui, là, au quotidien, est-ce que tu ressens ce que vient de décrire Daniel aussi?
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Éric, Jérôme et Daniel. Et puis finalement, on l'aime pas cette stratégie de trading. Mais en vérité, les Monégasques n'ont pas le choix. C'est la base de leur économie. Ils ne peuvent pas compter sur la billetterie. Ils ne peuvent pas compter sur le merchandising. Donc, ils comptent sur le trading. Ils achètent des joueurs à bon prix pour faire des marges après. Il y a deux problèmes à ça. C'est petit un, c'est extrêmement aléatoire comme façon de faire. Il y a une concurrence de plus en plus importante également. Beaucoup de clubs européens se sont mis à adopter cette stratégie. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut une ligne directrice très claire et les bonnes personnes au bon poste. Et dans l'organigramme de l'AS Monaco, eh bien on a le sentiment qu'il n'y a pas de ligne directrice claire pour véritablement avoir une stratégie de trading efficace.
Ouais, aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui t'as raison, hein, Jordan, de le mettre en avant, parce que je voulais rebondir là-dessus sur ce que disait Daniel, peut-être que les historiques, il faut arrêter de penser au passé et puis se rendre compte que l'équipe est différente aujourd'hui. Eric aussi mettait en avant le fait que le recrutement depuis un an a pas été que sur des jeunes, hein. Ils ont pris Fabregas, ils ont pris Ben Yedder, ils sont allés chercher Slimani aussi, donc ça montre que ils veulent passer aussi un cap, et peut-être qu'avec ces joueurs là tu peux t'inscrire aussi dans la durée et puis faire développer des jeunes à côté et puis faire tourner l'économie, parce que t'es obligé de rentrer dans les clous et de revendre les très bons jeunes. Mais ça, même à toutes les générations, même avant, ils l'ont toujours fait, mais il faut que le plan dans ce club soit plus clair. Aujourd'hui, il y a eu un président donc qui a changé, qui connaît pas grand chose au football, mais lui-même le dit, il s'y met au fur et à mesure, mais il faut qu'il soit mieux encadré. Aujourd'hui, c'est un peu le flou, il y a plus de directeur sportif, et ça, c'est un rôle qui est essentiel. Alors, ouais, Luis Campos faisait énormément de choses, même s'il avait pas le titre de directeur sportif, mais dans cette politique-là, il a excellé, comme il excelle aujourd'hui à Lille. Il faut absolument que Monaco arrive à trouver quelqu'un de charismatique dans ce rôle-là. Si c'est le cas, je pense que là, oui, en effet, peut-être que même les historiques, les supporters de ce club à Monaco, même si ils sont pas nombreux, mais en Europe et surtout en France, ils sont très nombreux quand même. Et ben si t'as cet homme-là charismatique en directeur sportif, peut-être que c'est plus facile pour eux de s'attacher au club, quoi.
Dans quelques instants, on continue le débat avec Adrien, notamment, qui est un supporter historique également de l'ASM, qui est avec nous au 32-16. Le 32-16 ouvert, le hashtag RMC Live, Direct Studio, l'After est là jusqu'à minuit avec vous tous les soirs. Et on continue, on se retrouve juste après les infos.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.